Good Morning Business, le grand entretien.
Et aujourd'hui, notre invité, c'est Olivier Marleix, député de Eure-et-Loir et président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Bonjour.
Bonjour.
Alors, votre parole est attendue parce que peut-être que grâce à vous, le gouvernement va faire passer des lois dans les prochaines semaines, on va voir. On va commencer par la loi locataire-squatteur. Finalement, c'était un peu votre idée, donc vous pourriez la voter, cette loi de la majorité.
Oui, je pense qu'on a votre bout du compte. C'est plus qu'un peu notre idée, c'est notre texte qui a été assez largement plagié par la majorité. Texte que la majorité a combattu pendant 5 ans, ça fait 5 ans qu'on déposait ce texte.
Et donc, rappelle que ça permet effectivement d'apporter plus de garanties aux propriétaires.
Aux propriétaires, de faire en sorte, c'est vrai que les peines d'amende étaient 3 fois plus fortes pour le propriétaire qui essayait de récupérer son bien, ne serait-ce qu'en changeant la serrure, par exemple, que pour le squatteur. C'est un peu paradoxal. Et puis, évidemment, on veut des procédures judiciaires beaucoup plus rapides pour qu'un propriétaire puisse récupérer son bien. Voilà, on veut aussi, d'ailleurs, protéger le propriétaire. C'est-à-dire quand le propriétaire est squatté, qu'en plus, il ne se retrouve pas responsable si le squatteur prend un bout du toit qui s'écroule, par exemple, qu'il ne puisse pas poursuivre le propriétaire. Donc voilà, je pense qu'on va arriver... j'espère qu'on arrivera à un accord au terme de ce texte.
Donc vous voterez avec la majorité présidentielle?
Oui, oui. Bah, écoutez, quand la majorité prend nos textes, fait de la flibusterie, on serait quand même mauvais joueurs de ne pas les voter.
Autre texte que vous allez sans doute peut-être voter avec la majorité, c'est celui de la réforme des retraites. Olivier Véran a dit hier que les contours de la réforme seront dévoilés à mi-décembre avant d'être présentés en janvier en Conseil des ministres. Sur le fond, il n'y a pas de désaccord avec cette réforme.
C'était il y a 64, 65 ans.
Alors, c'est quand même une réforme de retraite, c'est évidemment une question d'âge de départ, mais c'est pas que ça, c'est un critère important, mais c'est pas le seul critère. Donc on verra exactement sur quoi le gouvernement atterrit. Nous, on est favorable à une réforme des retraites qui fait rentrer un petit peu plus d'argent dans le dispositif pour redistribuer un peu plus, avec 38% des Français à peu près sont aujourd'hui au ce qu'on appelle le minimum contributif, c'est-à-dire des retraites qui sont de 700 et quelques euros plus éventuellement un bout de complémentaire, donc des retraites extrêmement faible, assez indigne d'un grand pays comme le nôtre. Donc oui, il faut faire une réforme des retraites si on veut augmenter ces petites retraites dans notre pays.
Avec un allongement
Alors c'est là quand même qu'on demande au gouvernement d'être un peu sérieux, on demande au président de la République de ne pas faire de provocations inutiles.
Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que de toute façon, avant un hypothétique 65 ans, il y a un 64 ans. Et avant de passer à 64 ans, de toute façon, il faudra passer par 63 ans, puisqu'aujourd'hui, on est à 62. Donc, ça sert à rien de faire de la gonflette, ça sert à rien de défendre un âge qui apparaîtrait comme un petit peu dogmatique, et qui serait hypothétique.
C'est marrant que vous disiez ça, parce que pendant la présidentielle, pendant les primaires, il y a certains de vos candidats qui proposaient carrément 67 ans.
Ah non, ça vous confondez avec Édouard Philippe, qui était le Premier ministre d'Emmanuel Macron. On est dans la provocation absolue. Une réforme de retraite, il ne faut pas donner le sentiment que c'est quelque chose de dogmatique. Il ne faut pas donner le sentiment qu'on fait une réforme de retraite pour faire plaisir au marché financier, pour envoyer un signal au marché financier ou parce que la Commission européenne le demande. Cette réforme de retraite, elle doit être faite, une fois encore, dans l'intérêt des Français, pour pouvoir avoir un peu de marge de manœuvre pour augmenter les petites retraites. Moi, je préférais qu'on y aille par étapes, qu'on dise 63 ans à la fin du quinquennat, en accélérant la réforme Touraine. C'est-à-dire que la réforme Touraine, c'est 43 années de cotisation, mais à l'horizon 2035.
Au fond, vous êtes plus timoré que la majorité présidentielle.
Je pense que si le président de la République fait le choix d'un chiffre un peu étendard comme ça, il échouera. Et moi, je préfère qu'on fasse une réforme progressive qui réussisse plutôt qu'une réforme prétendument ambitieuse qui échouera et qui divisera le pays inutilement. Avant d'aller à 65 ans, il faudra passer par 63 ans. Si déjà Emmanuel Macron arrive à faire cette réforme-là, ce serait très bien.
Bon.
Je rappelle qu'il a échoué pour l'instant sur son premier quinquennat à faire la moindre réforme de retraite. François Hollande avait réussi à faire une réforme de retraite, pas la plus courageuse, celle qu'on voyait pas sur la durée de cotisation.
C'est ce que vous voulez faire.
Mais
vous dites qu'il faut y aller progressivement.
Non, moi je veux accélérer. Je vous ai dit au contraire que je voulais accélérer la mise en œuvre. Je préfère qu'on ait fait une réforme réelle d'ici la fin du quinquennat plutôt que annoncer une réforme qu'on fera pas d'ici 15 ans.
Un mot du partage de la valeur ajoutée, c'est aussi un sujet de débat parmi nos concitoyens. Et ce rapport de Pascal Canfin, qui a reçu hier l'assentiment de la majorité présidentielle, d'un dividende salarié, c'est-à-dire que toute entreprise qui verse un dividende, même les petites entreprises, même celles qui ont moins de 50 salariés, qui n'étaient pas concernées jusqu'à présent, devront verser l'équivalent d'un dividende salarié, soit sous forme de participation, soit sous forme de prime, mais avoir la même enveloppe pour les salariés. C'est une bonne idée ?
Ouais. Écoutez, moi, je connais pas le texte, différence de vous, j'ai un désavantage. Dans ce débat sur le partage de la valeur, soyons très clairs, la rémunération du salarié, c'est d'abord le salaire. Voilà. Donc, c'est un peu étonnant qu'à un moment où il y a dans les entreprises un débat sur les salaires pour suivre l'inflation, le gouvernement organise une espèce de mesure de diversion sur le partage de la valeur à travers le dividende salarial.
Les entreprises lui demandent un peu d'avoir une valeur
Non,
vous savez très bien, alors vous êtes de droite quand même.
Soyons sérieux, on n'a pas attendu
pour
Pascal Canfin.
Pour les entreprises, augmenter les salaires de manière généralisée, c'est plus engageant que de faire une prime en dividende.
On vient au cœur du sujet, c'est que c'est mieux d'augmenter donner un bout de dividende salarié que d'augmenter les salaires. Donc vous voyez quand même le risque, les salariés,
vous préférez qu'on augmente les salaires,
c'est des augmentations de salaires.
C'est un peu comme la CGT en fait.
Non, mais je veux dire, soyons sérieux, le partage de la valeur, c'est d'abord le salaire pour le salarié. Ensuite, le partage de la valeur, il peut prendre d'autres formes. Les gaullistes n'ont pas attendu Pascal Canfin ou je ne sais quel membre de la majorité pour imaginer d'autres dispositifs d'association aux résultats de l'entreprise. On a déjà l'intéressement et on a déjà la participation. Il faut faire attention à ne pas rajouter trop de confusion dans ces dispositifs. Aujourd'hui, on a deux dispositifs qui se font un petit peu de concurrence entre la participation et l'intéressement.
Oui, mais là, la question, c'est d'aller plus loin.
Moi, je n'ai pas compris en quoi il voulait aller plus loin. J'ai compris qu'il voulait plutôt descendre en dessous du seuil de 50 salariés où, pour l'instant, il n'y a pas de dispositif obligatoire. Donc, pourquoi pas. Et ensuite, j'ai cru comprendre que ça pouvait aussi concernait une espèce de distribution obligatoire d'une part de résultats aux salariés quand il y a des super dividendes, ce qui est une idée que je trouve aussi plutôt intéressante. Voilà. Donc sur le fond, il n'y a pas de désaccord majeur. On attendra de connaître le dispositif. Voilà, mais je rappelle quand même que ça ne doit pas être une mesure de diversion par rapport à un vrai débat dans notre pays qui est celui des salaires.
On va parler de la compétitivité. Emmanuel Macron a atterri à Washington pour rencontrer dans le cadre d'une visite d'État Joe Biden, aujourd'hui, avec sur la table des dossiers qui fâchent, notamment l'agressivité américaine, en tout cas à l'égard de l'Europe, avec ce Inflation Reduction Act qui permet de subventionner massivement l'industrie américaine au détriment de l'industrie européenne, puisqu'il faudra avoir fabriqué sa voiture, notamment aux États-Unis, pour pouvoir bénéficier des primes sur la voiture électrique.
Mais c'est du bon sens. C'est du bon sens ce que font les États-Unis. Enfin, avant, on accusait l'affreux Monsieur Trump d'avoir ce genre de comportement. Aujourd'hui, le gentil Monsieur Biden a la même pratique. En réalité, il y a un moment où on peut pas être les seuls dans le monde, on peut pas être les idiots du village planétaire et les seuls à subventionner des voitures électriques faites à l'étranger. Donc, je pense qu'une mesure très importante, si vraiment on fait cette conversion à l'électricité d'ici 2035, qui me paraît une folie pour l'économie française, aujourd'hui, à l'heure à laquelle on parle, on ne sait pas faire de batterie électrique en France, donc c'est le saut sans parachute en espérant que quelqu'un nous en fournira un d'ici là. Moi, je pense qu'il faut impérativement réserver nos subventions à des voitures fabriquées au moins sur le sol européen. Voilà.
Il
est hors de question d'aller subventionner la Chine.
Eh bien, Olivier Merlex, vous êtes en partie d'accord avec François Ruffin, député LFI de la Somme, qui plaide pour des quotas d'importation.
On l'écoute,
on revient après.
Ce sont des outils qui ont existé pendant des décennies et des décennies, et sans que ça crée l'Union soviétique. Vous voyez, au contraire, ça a permis d'avoir un régime industriel régulé. Et qu'on n'est pas, parce qu'aujourd'hui, ça produit quoi ? Ça produit aussi du déficit commercial. Tout le monde est perdant. Les travailleurs, ils sont perdants parce qu'ils ont une pression constante sur la diminution de leur salaire. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays ? Qu'est-ce qui se passe depuis 40 ans ? On demande aux ouvriers de chez moi, de Dunlop, on leur dit, regarde le pneumatique qui est produit à l'Est, il est beaucoup moins cher. On leur demande de regarder à l'Est et vers le bas. Pendant que le patron de Total, lui, il regarde à l'Ouest, il regarde le patron d'Exxon aux USA et vers le haut. Et ça crée une dissension comme ça. Eh bien, il faut qu'on en finisse.
François Ruffin qui propose des quotas d'importation, c'est une bonne idée ?
Non, je ne suis pas forcément sur l'idée de quotas. Moi, je pense que c'est des principes beaucoup plus simples. Il est quand même aberrant qu'en France, l'État s'endette pour permettre aux Français d'aller acheter des voitures chinoises. Aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. Donc, soyons un tout petit peu sérieux. J'ai lu une interview il y a quelques jours du vice-chancelier allemand dans Les Échos qui expliquait, qui partageait cette idée qu'il fallait désormais que l'Europe serve à un tout petit peu mieux protéger. Ça, à quoi ça sert d'avoir fait le premier marché au monde si ce marché est une passoire et qu'il ne sert juste à subventionner des économies concurrentes ? Donc, si on veut faire cette transition écologique, si on veut aller vers plus d'électrique sur les véhicules. Je pense d'ailleurs qu'il y a un vrai sujet là-dessus, que le rythme auquel on y va n'est pas raisonnable pour notre industrie. Faisons-le au moins avec l'idée que ça doit servir à développer notre industrie, une industrie sur le sol européen et pas l'industrie chinoise.
Donc le Buy European Act en quelque sorte.
Évidemment.
Olivier Marleix, le FMI qui appelle la France à arrêter le quoi qu'il en coûte dès maintenant. On se fait encore taper sur les doigts. Est-ce que vous êtes d'accord?
Ben, c'est pas une surprise, malheureusement. Je crois que si on a parmi les 2-3 points de désaccord majeurs que nous avons avec Emmanuel Macron, il y a cette façon totalement irresponsable d'avoir systématiquement recours à la dépense publique.
Donc ça veut dire qu'il faut limiter les aides aux entreprises, par exemple, à partir de l'année prochaine, pour le bouclier tarifaire, par exemple?
Non, oui, vous savez, sur le bouclier tarifaire en matière d'énergie, on a pris une solution totalement folle qui fait appel à des subventions, alors qu'il aurait suffi que l'État comprenne la décision de sortir de ce marché européen qui est totalement biaisé, totalement faussé, avec un prix de marché totalement artificiel, hein, qui repose sur le prix du gaz utilisé pour produire de l'électricité. On en serait sorti, ça nous aurait coûté 5 milliards pour subventionner le prix du gaz utilisé pour faire de l'électricité. Et une fois qu'on avait payé 5 milliards, on savait produire en France une électricité à 50 euros le mégawatt-heure.
On ne sait plus. On a passé nucléaire. Vous savez qu'on a redémarré avant-hier la centrale à charbon Saint-Avold. Donc on ne sait plus fabriquer.
Non, mais on fait encore quand même 80% d'électricité en France. On a besoin d'en importer 20%. Qu'on paye ces 20% au prix de marché mondial, ouais, et qu'on aille le subventionner, pourquoi pas. Mais c'est une aberration. Le choix qu'a fait le gouvernement est un choix un peu fou. En tout cas, pour revenir à la question de la dépense publique, dans ce budget, c'est la raison pour laquelle on n'a pas voté, on est encore à 155 milliards de déficit qu'on ajoute. Le président Macron a été plus dispendieux que le président Hollande pendant tout son quinquennat. Et ça, avant même la crise du Covid. Donc oui, on a un vrai sujet de désaccord. Tout ça n'est pas sérieux. Tout ça n'est pas soutenable. Et avec des taux d'intérêt, des OAT à 10 ans à 3%, ça devient extrêmement dangereux.
Merci Olivier Marleix, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, d'avoir été notre invité dans Good Morning Business.